إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، ما زلنا نقرأ هذا الكتاب المبارك، ألا وهو شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ محمد ابن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. ووصلنا بحمد الله عز وجل إلى باب الرحمة 100 جزء. الرحمة 100 جزء. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم كريم.
Issu de ce degré, les créatures se formisent fort mutuellement, de telle sorte que le cheval lève son sabot au-dessus de son poulain par crainte de le blesser.
نعم أحسنت، بارك الله فيك. فذكرنا أن هذا الحديث صحيح، وقد أخرجه المصنف نفسه في صحيحه، وكذلك الإمام مسلم في صحيحه. ما يؤخذ من هذا الحديث؟ نعم، أولا بيان الرجاء والبشارة للمؤمنين. Donc, ce hadith, les frères, il est authentique, comme on l'a rapporté. Il a été mentionné aussi par Bukhari dans son authentique, ainsi que l'imam Muslim. Parmi les choses que l'on tire de ce hadith, premièrement, l'exposé de l'espoir et de la bonne annonce, al-bishara, de la bonne annonce qui est faite en faveur des croyants. En faveur des croyants. Dans le sens où on comprend par là que Allah Jalla wa Ala a réservé les 100 parts de sa miséricorde fil akhira, dans l'au-delà. Parce qu'il nous fait comprendre que Allah Jalla wa Ala, il a fait de la rahma 100 parties ou 100 portions de la rahma Jalla wa Ala. Et parmi ces 100 là, il a descendu une seule part qu'il a mise sur terre. Et cette part là, elle recouvre toutes les créatures. Toutes les créatures. Et à travers elles, les créatures sont miséricordieuses les unes envers les autres. Comprendre donc par là que Allah Jalla wa Ala, il a encore 99 parts de rahma qui, elles vont profiter aux croyants seulement. Fil akhirah, dans l'au-delà. Imaginez-vous, les frères, la rahma qui nous attend. La rahma qui attend les croyants. Thaniyan, idkhal as-sururi 'ala al-mu'minin. لأن العادة أن الإنسان يفرح فرحا شديدا عندما يحصل له العلم بشيء الموعود المخبوء، ولأنه إذا حصل له بالرحمة الواحدة في هذه الدار كل هذه النعم من الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغير ذلك مما أنعم الله عليه، فكيف الظن بمئة الرحمة في الدار الآخرة؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. Deuxième chose que l'on tire de ce hadith, le fait qu'il est recommandé de faire rentrer la joie dans le cœur du croyant. Hein? Hadith sunna. Toi, quand tu connais une information, une nouvelle, tu sais qu'elle va faire plaisir à la personne, dépêche-toi de lui dire et de lui en informer pour lui faire plaisir et pour lui faire rentrer la joie dans son cœur. Voyez ? À l'inverse, il est fortement détestable de faire entrer la tristesse dans le cœur du croyant. Hein ? La tristesse, une nouvelle qui va lui déplaire. Dans ce cas-là, tu vas éviter de lui informer. Pourquoi ? Parce qu'il dit, en principe, et normalement, l'homme se réjouit lorsqu'il lui parvient une nouvelle qui va lui donner de l'espoir, une nouvelle qui lui est promise, hein, comme ici, la rahma d'Allah, jalla wa ala. Car, comme on a dit, du moment où, ici-bas, toutes les créatures peuvent profiter d'un centième de cette rahma d'Allah Jalla wa Ala. Et ce centième-là, quelle est sa répercussion sur terre? L'islam. Le fait qu'Allah Jalla wa Ala nous ait descendu l'islam, le Coran, la prière, la rahma qu'il y a dans ton cœur. Tout ce qu'Allah Jalla wa Ala te donne comme bienfait ici-bas ne sont que le fruit d'un centième de la rahma d'Allah Jalla wa Ala. Hein? C'est à ça qu'on doit penser. On doit penser à ça. Ce n'est pas juste le fait qu'on soit miséricordieux les uns envers les autres. Non, il faut penser aussi à tout ce qu'Allah nous a donné. L'islam, la guidée, le tawhid, le Coran, le salat, le ta'a. Tout ça, ça fait partie de juste un centième de cette rahma subhanahu wa ta'ala, la rahma d'Allah jalla wa ala. Que dire alors, hein, lorsqu'Allah jalla wa ala, il va faire profiter et faire parvenir dans le delà toute la rahma de manière totale et absolue, les 100 parts de rahma, ne dis même pas les 99, mais les 100, parce que dans le delà ça fera 100 plus celle de la terre, ça fera 100. الحمد لله. ثالثا الحث على الإيمان، الحث على الإيمان واتساع الرجاء في رحمات الله تعالى المدخرة ليوم القيامة. Et troisièmement, l'incitation et l'encouragement, hein, à avoir la foi, à avoir la foi en Allah Jalla wa Ala, et avoir la foi, ou plutôt avoir un espoir, un grand espoir des miséricordes d'Allah Jalla wa Ala qui nous attend yawm al-qiyamah. Demande à Allah qu'on meure tous sur la foi. Rabi'an bayanu anna ar-rahma min sifatillah. Ar-rahmatu min sifatillah Jalla wa Ala al-ula wa hiya thabitatun لله بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهي صفة ذات وصفة فعل والمراد هنا ما يتعلق بصفة الفعل لا بصفة الذات، لأن صفة الذات لا تتعدد. Quatrièmement, l'exposé que Ar-Rahma, c'est une des sifat, c'est un des attributs d'Allah Jalla wa Ala élevé. Donc, parmi les sifat d'Allah Jalla wa Ala, taqul Ar-Rahma. Ar-Rahma. Et cet attribut-là d'Allah Jalla wa Ala, elle a été confirmée par le Coran, par la Sunna et par le consensus des ulama. Il n'y a bien sûr aucune divergence à ce sujet-là. Et on avait vu aussi que Ar-Rahma d'Allah Jalla wa Ala est de deux types. On a une Ar-Rahma qui est un attribut de that, qui est intrinsèque à Allah Jalla wa Ala, un attribut d'entité, d'essence à Allah Jalla wa Ala, qui ne se sépare jamais d'Allah Jalla wa Ala. Alors, sifat that, comme la science, la vue, l'ouïe, hein, la force, la vie, le hayat, tout ça, ce sont des attributs d'entité qui sont indissociables d'Allah Jalla wa Ala. Tu ne peux pas dire Allah, il vit quand il veut. Non, Allah, il vit, il est vivant, il ne meurt jamais. Tu ne peux pas dire Allah, il voit quand il veut. Non, tu dis Allah, il voit. Il n'est jamais dépourvu de vue. Allah, il sait quand il veut. Là, Allah, il sait tout. Tout le temps. C'est pareil pour la Rahman. Tu ne dis pas Allah, il est Rahman quand il veut. Là, il est Rahman. Tout le temps, il est Rahman. D'accord ? Par contre, on a une forme de Rahma qui est un attribut d'action. Il y a deux Rahma. Il y a la Rahma qui est un attribut d'identité, d'essence, et la Rahma qui est un attribut d'action. Dans ce cas-là, on pourra dire Allah Jalla wa Ala kana aw yakunu rahiman matasha. Allah, il est rahim, mathalan, quand il veut. Et avec qui il veut. Il est rahim. Allah est rahim envers les croyants, yom al-qiyama, et pas envers les kuffars. Donc on a deux formes de rahma ici. Et dans ce hadith, la rahma qui est désignée, qui est visée, c'est laquelle? C'est la première ou la deuxième? C'est la deuxième. Pourquoi c'est la deuxième? Parce qu'un attribut d'entité ne peut pas se fragmenter en plusieurs morceaux, comme ici dans le hadith. On ne peut pas dire, par exemple, la science d'Allah se divise en 100. Là, ça ne se dit pas ça. Ou la vue d'Allah se divise, ou l'ouïe d'Allah, ou la vie d'Allah se divise. Là. D'accord? Donc, la rahma dont on parle ici, c'est la rahma d'action. Qu'Allah Jalla wa Ala va faire preuve à certains moments et pas à d'autres. Qu'Allah Jalla wa Ala va en faire profiter à certaines créatures, mais pas à d'autres. D'accord? Donc cette rahma-là, elle peut être divisée, comme nous l'a appris ici le prophète, alayhi salatu wassalam, hein, en 100 juz, en 100 parties, ou en 100 morceaux. Taïb? Non. Khamisan, dalilun ala azamat al-rahma. حيث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الأرض تتراحم بها الخلائق كلها من عالم الإنس والجن والدواب والوحش والطير وغير ذلك فهذا أمر مشاهد نراه ونلمسه في بهيمة الأنعام في بهيمة الأنعام البقر والإبل الشاة فكذلك في الطير وفي جميع المخلوقات فيها رحمة وعطف من الكبير على الصغير أنزل الله رحمة واحدة في قلوب مخلوقاته يتراحمون بها وَوَسِعَتْهُمْ هَذِهِ الرَّحْمَةِ. Cinquièmement, la preuve de l'immensité de la rahma d'Allah Jalla wa Ala. Imagine-toi mon frère, la rahma d'Allah comme elle est vaste. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a affirmé cette rahma en disant que Allah il possède 100 rahmas.
D'accord ? Sans rahma. Et il a descendu un centième, donc une part de ses sangs, il l'a mise sur terre. Et cette seule rahma, ce centième, il suffit pour que les créatures, toutes les créatures, sans exception, ressentent de la rahma pour les autres créatures. Et quand on dit les créatures, c'est pas juste les êtres humains, c'est les humains, les djinns, les animaux domestiques ou sauvages, les oiseaux, les poissons profitent de cette rahma, de ce centième de rahma d'Allah Jalla wa Ala. Donc ça, c'est quelque chose que on constate et qui est visible, hein, chez les animaux. Quand tu regardes les vaches, les chameaux, les moutons, les chèvres, les oiseaux, même les bêtes sauvages, hein, même les lions, les tigres, tout ce que tu veux, d'ailleurs, eh bien tu constates que cette rahma, elle est présente chez elles. Quand tu vois comment la mère, elle se comporte avec son enfant. Hein? Donc Allah tabarak wa ta'ala, par cette seule rahma, d'ailleurs, il a mis dans le cœur de ces créatures-là cette rahma, et on voit qu'elle englobe vraiment toutes les créatures, subhanallah. فَإِذَا جَاءَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ضَمَّ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الرَّحْمَةِ الَّتِي أَنْزَلَهَا فِي الْأَرْضِ إِلَى 99 رَحْمَةً أَبْقَاهَا وَرَحِمَ بِهَا مَنْ يَسْتَحِقُّ رَحْمَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ تَابَعُوا رُسُلَهُ عليهم الصلاة والسلام واستجابوا لدعوتهم ولكنهم وقعوا نعم المؤمنون قد وقعوا في مخالفات ومعاصي فماتوا على التوحيد وعلى الصلاة والصوم وماتوا على العبادات ولكن وقعوا في أخطاء في معاصي ومخالفات فالله جل وعلا يرحمهم ويغفر لهم فيدخلهم الجنة لأن دخول الجنة لكل إنسان استحق الفوز بالجنة والنجاة من النار. Puis quand viendra le jour du jugement, de la résurrection, Allah Jalla wa Ala, il va annexer cette rahma qu'il y avait sur terre, il va l'annexer avec les 99. Avec les 99 qui étaient réservés pour l'au-delà. D'ailleurs, et là, il va faire preuve de rahma. Imagine-toi, mon frère, combien de fois ? 100 fois plus. 100 fois plus de rahma ici, fil akhira. En faveur. Et là, par contre, c'est pas pour toutes les créatures. Là, par contre, là, les 100 rahmas ce jour-là, elles sont réservées qu'aux adorateurs d'Allah, aux serviteurs d'Allah Jalla wa Ala, qui ont suivi leur messager, alayhi salat wa salam, à chaque époque. Hein? Ceux qui ont suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son époque, ceux qui ont suivi Isa alayhi salam à son époque, ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam à son époque, ceux qui ont suivi Ibrahim à son époque, etc. etc. C'est ceux-là qui vont pouvoir profiter de ces rangs, de ces 100 rahamat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez? Et qui ont donc répondu à l'appel de leur messager. Et vous savez que, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tous les enfants d'Adam font des péchés, sont pécheurs. D'ailleurs, donc forcément, toute personne a commis des erreurs et des péchés dans sa vie. Eh bien, alhamdoulilah, ils pourront profiter ce jour-là de ces 100 rahmas qui leur sont réservés. D'ailleurs, donc ils ont fait des péchés, mais alhamdoulilah, ils sont morts sur le tawhid. Ils sont morts sur la prière. Ils sont morts sur le siyam, le jeûne. Ils sont morts sur des adorations quand même. ce ne sont pas des kuffars. Donc ils ne sont pas morts sur le kufr, ou ils ne sont pas morts sur le délaissement de la salat. Là, c'était des gens qui priaient, qui jeûnaient, alhamdoulilah, et qui faisaient quelques ou des adorations, mais qui ont fait des péchés, comme tout le monde ont fait des péchés. Et bien ce jour-là, Allah Jalla wa'ala, il va leur faire profiter de cette rahma, il va les faire entrer au paradis. Voyez, car l'entrée au paradis, elle est destinée à tous ceux qui méritent le succès au paradis et le salut du feu de l'enfer. Ça ne veut pas dire que tous les croyants n'entreront pas en enfer. Ça ne veut pas dire ça. Vous savez que beaucoup de croyants vont entrer en enfer. Vous voyez ? Mais après, ils vont sortir de l'enfer pour entrer au paradis après être purifiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans tous les cas, le fait que Allah jalla wa ala, il sorte ces croyants là de l'enfer, c'est la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même eux, ils profiteront de cette rahma énorme d'Allah jalla jalala. ثم يقول الا وان دخول الجنه بمحض رحمه الله واقسامها ومنازلها وما اعظمها واكثرها بصالح الاعمال. لأن الله حكم عدل يجازي كل عامل من جنس عمله، فأهل الإيمان ليسوا سواء في إيمانهم، فيجازيهم بحسب أعمالهم الظاهرة الباطنة، فيتفضل عليه من فضله وجوده وإحسانه، فيرفع منازلهم ويعلي درجاتهم ويعطيهم من الملك الكبير ما يليق بعظمته وجلاله لأنه الغني الحميد. Donc, pourquoi dans tous les cas, ceux qui vont entrer au paradis ne vont rentrer que grâce à la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala? Sachez que les œuvres que l'on fait, As-salat, as-siyam, as-zakat, al-hajj, ne sont que des esbab, ne sont que des causes afin de pouvoir profiter de cette rahma yawm al-qiyama. Parce que le paradis, il est trop grand par rapport à tes œuvres. Même si tu adores Allah toute ta vie, tu adores Allah jalla wa'ala toute ta vie, du matin au soir, tu restes prosterné et que tu meurs à 100 ans, mathala, sache que ce ne sera jamais assez par rapport au paradis. Ça ne sera jamais assez. Le paradis est trop grand. L'éternité, mon frère. C'est quoi l'éternité par rapport à 100 ans ou là, 1000 ans, 10 000 ans, 100 millions. L'éternité, incomparable. Ça veut dire que si tu rentres au paradis, sache qu'en vérité, ce n'est que par la rahma d'Allah. Allah, jalla wa ala, il a déversé sur toi sa rahma. Puis il t'a fait entrer au paradis. Mais pour profiter de cette rahma, il faut faire des causes. Et ces causes, c'est quoi? L'amal salih, les bonnes actions. Non. C'est pour ça qu'il dit donc, le degré que tu vas atteindre au paradis, il va dépendre de ces causes aussi. Parce que l'entrée au paradis, elle se fait par la rahma d'Allah, uniquement. Mais le degré que tu vas avoir au paradis, ça va dépendre de tes œuvres. Des œuvres que tu as faites, fait dunya. D'accord? Plus tu as fait d'œuvres sincères pour Allah Jalla wa Ala, et plus tu seras élevé en degré et en niveau au paradis. Car Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui juge. Et il est sage. Et il est juste. Il est juste, Allah Jalla wa Ala. Et donc, toute personne sera rétribuée selon la nature de ses actes. Et selon la quantité et surtout la qualité de ses actes. Taïeb, je vous rappelle qu'il vaut mieux faire un peu d'actes, mais sincères pour Allah Jalla wa'ala, que beaucoup avec de l'ostentation. Donc là, ce qui est important, comme il dit le Cheikh ou l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est pas la quantité, c'est ce qu'il y a dans le cœur de la personne au moment de l'acte. C'est ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Il a dit, il se peut que deux personnes fassent la même action, la même chose, exactement les mêmes gestes, les mêmes paroles, hein, mais que entre les deux actions, il y a une différence comme entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre. Les deux y prient dans le même sauf. Il y en a un, sa prière, il n'est pas acceptée, et l'autre, elle est acceptée. Par rapport à quoi ? L'ikhlas. L'ikhlas ou le mutaba'a. Le suivi de la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, de là, vous connaissez tous les hadiths de l'homme qui viendra à Yom al-Qiyamah avec al-Bitaqa, la carte. Une carte où il y a écrit La ilaha illallah dessus. D'ailleurs, et on va la peser cette carte-là. Et sur l'autre côté de la balance, on va peser 99 registres où il n'y a que des péchés. Que des péchés, que des péchés. Hein? Et là, on va dire à cet homme-là, est-ce que tu as une excuse par rapport à ces péchés que tu as fait? Là, je n'ai pas d'excuse. Et là, on va lui dire, non, au contraire, tu as une excuse. Et là, on va sortir le bitaqa. La ilaha illallah. Et on va poser le bitaqa, la ilaha illallah, qui va être plus lourde que tous les péchés qu'il a fait. Et donc, il sera pardonné, il rentrera au paradis. Mais est-ce que on va tous profiter de la ilaha illallah comme lui il a profité? Non. Pourtant on a tous cette carte là. Tous ceux qui disent la ilaha illallah, ils ont cette carte là. C'est vrai ou pas? Si tu meurs sur tawhid, c'est que la carte tu l'as, la ilaha illallah. Mais est-ce que tous les croyants, Allah il va leur pardonner comme il a pardonné à cet homme là? Non. Parce qu'on sait que certains ils vont entrer en enfer. Donc c'est quoi qui a fait la différence par rapport à cet homme? C'est quoi? Sa sincérité. Elle est classe. Malgré tous les péchés qu'il a fait, eh bien, il a fait quelques bonnes actions qui étaient vraiment sincères pour Allah, Jalla wa Ala, sans un brin d'ostentation, sans un brin de m'as-tu vu ou de pour se montrer, pour autre qu'Allah. Dans son cœur, il n'y avait que Allah, Jalla wa Ala. Dans son cœur, il n'y avait que Allah. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui vont faire des péchés, mais lorsqu'ils font une bonne action, elle est pure. Elle est pure pour Allah. Et à l'inverse, il y a des gens qui font moins de péchés, mais leurs bonnes actions, elle est mélangée, elle n'est pas pure. Elle n'est pas pure. Il y a d'autres intentions derrière. Que ce soit la dunya ou la réputation, ou ce que tu veux. Ça y est ?
Le hadith qui dit que man kana akhra kalamuhu la ilaha illallah. Ça englobe pas tout le monde.
Ça englobe tout le monde, ça englobe Jami' al-Mu'minin, tous les croyants. Lakin dukhul jannah, l'entrée au paradis, elle est de deux sortes. On a une entrée au paradis, yani dukhulan awwaliyan, une entrée awwali, c'est-à-dire avec ceux qui vont entrer au paradis sans passer par l'enfer, une entrée directe. Mais il y a un autre type d'entrée. Hein, qui est voilà, c'est ça, direct, sans passer par l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Voyez, mais il y a une deuxième forme d'entrée qui est une entrée, mais après avoir fait une étape et un passage en enfer. Voyez, non. Ça, Allah Jalla wa Ala dit Inna Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
السلام عليكم.
Il dit le prophète صلى الله عليه وسلم, Allah il interdit au feu de toucher celui qui a dit لا إله إلا الله en désirant par cela le visage d'Allah سبحانه وتعالى. Et les ulama ils disent que ce hadith ça peut être une interdiction, يعني tout de suite, c'est-à-dire que le feu de l'enfer ne le touchera jamais, il entrera au paradis directement, mais ça peut être aussi une interdiction ba'd amad, après un temps en enfer. Donc l'interdiction elle peut être tout de suite, d'accord, mais elle peut être aussi après un certain temps passé en enfer. Taïeb. C'est comme ça qu'il faut qu'on doit comprendre tous ces hadiths-là, afin que l'on sache que la personne qui meurt, il y en a sur tawhid, il se peut que, à cause de ses péchés, il aille en enfer pour un certain temps. Non. Donc on a dit, les degrés au paradis vont dépendre des actes de la personne. Ce n'est pas tous les croyants qui sont au même niveau de foi. Vous voyez ? Donc on sera tous jugés et mis au paradis en fonction de nos actes, que ce soit des actes apparents ou des actes cachés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va répandre sur eux sa grâce, sa générosité et sa bienveillance ce jour-là, et il va les élever en degré au paradis, et il va leur donner un royaume énorme, immense, gigantesque, conformément à la grandeur d'Allah Jalla wa Ala et à sa majesté, car c'est lui le riche dans l'absolu, ou le Hamid, le digne de louange. Fa al-maqsoud anna rahmatan wahida min mi'ati rahmatin anzalaha Allah Jalla wa Ala fil ard wa yawm al-qiyamah يضمها إلى 99 رحمة ويرحم بها من يستحق الرحمة بخلاف من لا يستحق الرحمة وهم الذين لم يأتوا بأسباب الرحمة كأهل الكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يرفع به رأسا فهؤلاء إن ماتوا على ذلك لا يستحقون من رحمة الله مقدار ذرة والعياذ بالله وهو أرحم الراحمين ولكنه الحكيم يضع الأشياء في مواضعها. نعم. Donc ce qui est le maqsoud, ce qui est voulu ici dans le hadith, c'est que des 100 rahmas d'Allah Jalla wa Ala descendus sur terre, tayyib, et lorsque le jour de la résurrection, Allah Jalla wa Ala, il va l'annexer aux 99 autres rahmas, et bien c'est là que Allah Jalla wa Ala fera preuve de toute cette rahma à ceux qui la méritent, contrairement à ceux qui ne la méritent pas, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait les causes. Hein? Ceux qui n'ont pas fait les causes pour obtenir et profiter de cette rahma. Voyez ? Comme les gens qui sont morts sur al-shirk, l'associationnisme, ou al-kufr, al-akbar, ou l'hypocrisie au niveau de la croyance. Hein? On ne parle pas de l'hypocrisie de certaines actions qu'on peut faire, comme la trahison, ce genre de choses qui font partie des attributs des hypocrites. Mais là, on parle de l'hypocrisie au niveau de la croyance. Hein, celui qui cache al-kufr et qui montre l'islam. Ou ceux qui se sont détournés totalement de la religion d'Allah Jalla wa'ala. Ni ne la prennent et ni ne la pratiquent. Ni ne la prennent, ni ne la pratiquent. Ceux qui disent, mathalan, je suis musulman non pratiquant. Musulman non pratiquant. Celui qui dit ça, sache qu'il ne pratique rien, lui. Ni il prie. Ni il prie. Ni il apprend sa religion. Ni il apprend qui est son prophète. Qui est Allah. Il s'est détourné complètement. Il se désintéresse complètement dans la religion. Est-ce qu'on peut dire que lui, c'est un croyant, c'est un musulman? Franchement, il n'accorde aucune importance à l'islam.
Et concernant l'apostasie, les personnes qui sont ni musulmans ou qui ont cru, après ils se sont apostasés. Ils rentrent dans ce cercle-là.
Ah, bien sûr. Un âme. Celui qui sort de l'islam et qui meurt dessus, qui meurt sur le kufr, il est concerné, bien sûr. Il ne pourra pas profiter de la rahmat d'Allah. Ce qui compte, c'est comment tu meurs, c'est ça qui compte. Même si tu as passé toute ta vie sur l'islam, et qu'au dernier moment, tu sors de l'islam, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Et le contraire, bien sûr. Celui qui a vécu toute sa vie dans le kufr, et qu'au dernier moment, il embrasse l'islam, il dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam », il commence à apprendre le wudu, le salah, il meurt 3 jours après. Il a tout gagné. C'est pour ça qu'on doit demander à Allah Husna al-Khatima, une bonne fin. Une bonne fin, parce que c'est ça qui compte. C'est ça qui est le plus important. Donc ceux qui sont morts sur l'apostasie ou sur le kufr, le shirk et l'akbar ne mériteront en aucun cas de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Miqdar dharra, ne serait-ce que une petite boue de rahma, même pas. Dharra en arabe, c'est à la base c'est une petite fourmi. C'est la fourmi la plus petite qui soit, on l'appelle Dharra. Donc, il ne pourra même pas profiter de l'équivalent d'une fourmi de Rahma. Alors qu'Allah Jalla wa'ala, à la base, et on sait qu'Allah Jalla wa'ala, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Rahman Rahimin. Malgré ça, ils ne mériteront pas ce jour-là un atome de Rahma. Mais Allah Jalla wa'ala, c'est lui le sage par excellence et c'est lui qui est juste et qui met les choses à leur place. Celui qui mérite, celui qui ne mérite pas. Celui qui a fait les causes, il profitera bi'inillah azza wa jal de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pourra dire avant de mourir La ilaha illallah. La ilaha illallah. Et ça, bien sûr, celui qui dit La ilaha illallah avant de mourir, c'est un signe d'espoir pour lui. On peut espérer pour lui. On ne dit pas qu'il est au paradis. Allahu alam. On n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. Mais on peut espérer. On dit, alhamdulillah. On espère pour lui la sincérité et le paradis. Parce qu'il est mort sur la ilaha illallah. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que cette parole-là. T'as vu ? C'est pour ça que quand tu... quand tu es à côté de quelqu'un qui est en train de mourir, hein, faut que tu lui rappelles La ilaha illallah. Tu es à côté, tu répètes à côté, tu dis La ilaha illallah pour lui rappeler. Comme ça, lui, il répète après toi La ilaha illallah. Après, tu arrêtes de parler et tu le laisses. Comme ça, il meurt sur ça, alhamdulillah. Non. C'est clair, les frères? فننتقل إلى باب الوساط بالجار. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوسيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم.
Je cessa de me conseiller à l'égard du voisin jusqu'à ce que j'ai pensé qu'il allait être parmi les héritiers.
Non. Non, pour l'autre. Et donc, هذا الحديث
صحيح أخرجه المصنف في صحيح وأخرجه مسلم في صحيح ورجال الإسناد منه إسماعيل ابن أبي أويس ومنهم مالك. Donc parmi les transmetteurs de ce hadith, on a Ismaïl ibn Abi Uwais, rahimahullah, qui fait partie des transmetteurs fiables de hadith. Puis on a Malik. C'est qui Malik ici? Hein? Non. L'imam Malik. Malik ibn Anas. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ibn Anas, imam Dar al-Hijra, hein? L'imam de Médine à son époque, fait partie des transmetteurs de hadith. De qui a pris Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Pas directement, mais par ici, par l'intermédiaire de Ismaïl ibn Abi Uwais. ثم يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان الحافظ الثقة الحجة ثم أبو بكر ابن محمد عن عمرة وعمرة هي بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصارية. نعم. Donc tous les noms que vous avez entendus ici font partie des transmetteurs connus et fiables des hadiths du Nabi صلى الله عليه وسلم. معاني الكلمات قوله الوساط لغة في الوصية. نعم. فلك أن تقول وصية أو وساط أو وصاية. كل هذه الثلاث بمعنى واحد. الوصية الوصاية والوساط. D'accord. Donc, le chapitre, il est intitulé comment?
Les recommandations à l'égard des voisins.
Non. Donc, la recommandation à l'égard du voisin. Non, la recommandation. C'est du singulier, ça. Donc, on peut dire wasiya. On peut dire wasat aussi, ça se dit. Wasat, wasiya ou wisaya. D'accord. Wisaya, wasiya, wasat. Non. Au pluriel on dit wasaya. Wasaya au pluriel. قوله بالجار اسم الجار يشمل المسلم والكافر. هذا الحديث يشمل الإحسان إلى الجار المسلم والكافر. والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والأقرب دارا والأبعد والقريب والأجنبي. فلفظ الجار يشمل هذا كله وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار مطلقا. Donc regardez les frères, l'importance et la valeur du voisin en islam. Il dit ici le terme al-jar, le voisin, il englobe tous les voisins, que ce soit un musulman ou un kafir, que ce soit quelqu'un qui adore Allah jalla wa ala ou quelqu'un qui désobéit à Allah jalla wa ala. Hein? Que ce soit un voisin qui est véridique ou au contraire un ennemi, que ce soit un étranger qui vient d'ailleurs ou quelqu'un qui est originaire de ton pays, quelqu'un, un voisin qui est le plus proche de toi, le voisin de palier comme on dit, celui qui est en face de toi ou à côté, ou celui qui habite le plus loin de chez toi, eh bien ça reste un voisin aussi. Que ce soit un voisin qui est proche, qui a un lien familial avec toi, maintenant, hein, ton frère, ta soeur, ta famille, ou un étranger, peu importe. Ça englobe tous les voisins. Tous les voisins. Naturellement, celui qui est ton voisin, et en plus, il est musulman, et en plus, c'est ta famille, lui, son droit, il est...
Il a trois droits, lui. Il a le droit du voisinage, le droit de l'islam et le droit de la famille. Plus c'est forcément, c'est encore plus appuyé. Mais dans tous les cas, le droit du voisin, il est là, il est présent. Non. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé ici, il a fait une recommandation en faveur du voisin sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Hein, des fois, on a un voisin qui habite en face de chez nous, mais on le voit, il n'est pas sur l'islam, c'est un kafir. Ou ses enfants, ils font, sont bruyants, ou ils font du bruit, etc. Du coup, on va pas les calculer. Limite, on leur dit même pas bonjour. Vous voyez ? Voilà. Il faut qu'on se rappelle ce hadith. Et qu'on se dise que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé pour le voisin, il n'a pas précisé lequel. Ça veut dire que ça englobe tous les voisins. Tous ceux qui habitent près de chez toi, à côté de chez toi, dans ton bâtiment, dans ton quartier, c'est ton voisin. Même le quartier. D'accord ? Même s'il n'habite pas dans ton bâtiment, si son bâtiment il est dans ton quartier, c'est ton voisin. Tous les voisins. Il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Yusini biljar, ay Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam, kana yusi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, biljar. Ay ya'muruni, بحفظ حقه من الإحسان إليه ودفع الأذى عنه حتى ظننت أي حتى اعتقدت وترقبت حتى ظننت أنه سيورثه أي حتى ظننت أنه سيأمر بتوريث الجار من جاره بأن يجعله شريكا في المال مع الأقارب الآخرين. Donc il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, Jibril n'a cessé de me faire des recommandations en faveur du voisin. C'est-à-dire n'a cessé de m'ordonner. Ici le wasiya, c'est l'amr, c'est l'ordonnance. N'a cessé de m'ordonner de préserver et sauvegarder le droit du voisin et d'être bienveillant envers le voisin et de repousser le mal du voisin jusqu'à ce que dans un tout, jusqu'à ce que j'ai pensé, jusqu'à ce que j'ai cru et je me suis dit qu'il allait lui donner une part de l'héritage. C'est le tawrif, le fait de rendre quelqu'un héritier de la personne qui est décédée. Jusqu'à ce que le prophète, il s'est dit, il va finir par me dire que le voisin, il a un droit sur l'héritage de son voisin. Imagine-toi. Celui qui meurt et allait de là, ses voisins ont profité des biens qu'il a laissés. On va tous déménager. On va aller habiter à côté des millionnaires. Mais bon. Ça ne s'est pas fait. Vous voyez ? Pour montrer un peu ici le Mubalagha, tellement il insistait, Jibril alayhi salam, tellement il insistait sur le droit du voisin jusqu'à ce que le prophète il a pensé ça. Et il s'attendait à ça. Sincèrement, il s'attendait à ça. فهذا الحديث يؤخذ منه بيان لعظم حق الجار وفضل الإحسان إليه. Premièrement, on tire de ce hadith le droit du voisin et son importance énorme. Et le mérite aussi de la bienveillance en faveur de ton voisin. Et ça montre aussi la gravité de nuire à son voisin. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Il faut comprendre que être bienveillant et bienfaisant envers le voisin, il y a derrière une récompense énorme. Mais celui qui, au contraire, il est malfaisant, malveillant, qui gêne son voisin, ne serait-ce que avec les bruits, avec la saleté, les odeurs, il gêne son voisin, lui, il est dans un danger énorme aussi. Donc il faut penser à ça aussi. Combien d'incivilité entre voisins aujourd'hui? Combien? Même entre musulmans, hein, il y a des conflits entre voisins, des disputes. La femme avec la voisine, l'homme avec le voisin, les enfants avec les enfants. Vous voyez? Le musulman doit vraiment y aller, respecter et honorer son voisin. Et c'est pas que le musulman. Al-Kafir, on l'a vu, Al-Kafir. Celui qui ment, celui qui est pervers, celui qui désobéit à Allah Jalla wa Ala. Même eux, si ce sont tes voisins, eh bien ils ont droit, un droit sur toi. Et ce droit-là, c'est quoi? C'est que tu ne leur fasses aucun mal et que tu es bienfaisant avec eux. Et wallahi, si on respectait tous cette façon de se comporter avec les voisins, wallahi, l'islam, il se propagerait encore plus que ça, encore plus qu'aujourd'hui. Pourquoi tu ne veux pas leur dire bonjour? Le fait de dire bonjour, ça rentre dans ça. Ça rentre dans le droit du voisin. Le droit du voisin, minimum, bonjour. Si tu enlèves le bonjour, tu vas faire quoi, ton voisin? Si tu enlèves le bonjour, qu'est-ce qui reste? Au revoir. Là, quand tu dis bonjour, c'est quand tu les croises. Je ne demande pas d'appeler tous les gens le matin. Allô, voisin, bonjour. Tu n'auras pas respecté le droit du voisin. Ah, bien sûr. Donc, tu n'as pas péché.
Eh oui. Eh non.
Les musulmans, c'est obligatoire, les musulmans, tu ne parles même pas. Mais dans un pays de kufr, les ulama, ils disent dans un pays de kufr, tu peux même commencer à dire bonjour. Il y en a certains, parce qu'ils prennent les hadiths, ils disent que les musulmans, ils ne passent pas le bonjour en premier au kafir. Là, dans un pays de kufr, ce n'est pas toi qui es en force. Tu n'es pas en force ici. Si tu commences à ne pas passer le bonjour, quand tu marches dans la rue, que tu les croises, tu les pousses sur le côté. Ils vont détester l'islam. Ils vont le détester. Dans un pays musulman, c'est autre chose. Pays musulman, on ne parle pas. Et nous, ici, il faut qu'on passe le bonjour. Tu croises ton voisin. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Hein? Ils répondent, alhamdoulilah. Qui va, qui répond pas? Ils répondent.
Celui qui est aussi. Moi, j'ai un voisin, j'ai dit tout à l'heure.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
Donc le bon comportement minimum qu'on peut avoir avec les voisins kuffar, c'est bonjour. Bonjour. Si tu même si tu fais même pas bonjour, tu dis même pas bonjour, qu'est-ce qu'il reste? Il reste plus rien. Taïeb. Maintenant, celui qui dit pas bonjour à son voisin, c'est un mauvais comportement. Taïeb. Allahu alam si c'est un péché. Allahu alam si on commet un péché quand on dit pas bonjour. Mais c'est sûr que c'est un mauvais comportement et que c'est pas comme ça que tu vas intéresser les gens à l'islam. Voilà que c'est pas comme ça. Ahsant.
Il y en a quand tu leur dis bonjour, ils ont peur. Tu veux
plus
dire bonjour après.
Comment?
En tout cas,
ils ont peur.
Ils ont peur, ils sont méfiants. Ils sont.
Ils ne connaissent pas, ils connaissent mal.
Hein?
Mal,
ah oui, ils ont des préjugés. Bonjour avec le sourire, tu les aides. Quand ils montent les courses, tu les aides. Tu tiens la porte. Hein? Que ce soit des femmes ou des hommes. Que ce soit des femmes ou des hommes. Les femmes, tu leur sers pas la main, mais tu dis bonjour. Bonjour. Voilà. Ils risquent pas de te serrer la main. Hein?
S'ils ne vont pas, bonjour.
Même eux, ils mettent le niqab, maintenant, ils mettent le niqab.
S'ils ne répondent pas au bonjour, on continue.
Bien sûr, alhamdoulilah. Fais-leur des cadeaux, fais-leur des cadeaux. Pas que l'Aïd. L'Aïd, c'est connu ça, mais même quand c'est pas l'Aïd, fais-leur des cadeaux, alhamdoulilah. Tu le fais pour Allah, toi, tu le fais pas parce que tu les aimes, mon âme. Tu le fais pour Allah, Jalla wa'ala.
Bonjour, j'ai dit bonjour à monsieur. Qu'est-ce que vous voulez?
Vous dire bonjour. Vous dire bonjour, tout simplement. Il ne faut pas désespérer. Ou se dire, eux, ils sont perdus. Ou là, ils ne sont pas perdus. On a vu des exemples comme ça. Plein d'exemples. Moi, je connais des frères qui ont fait da'wa à leur famille durant des décennies. 20, 30, 40, 50, 60 ans. Wallahi. Il y a beaucoup de convertis en France. Ils ont tous des expériences comme ça. Il y en a un, il a fait da'wa à sa grand-mère. Sa grand-mère jusqu'à combien? 90 ans, voilà. Hein? 90 ans. Non, non, non. C'est un Français, Allah. C'est un Français. Et au début, il était vraiment hostile à l'islam. Très hostile à l'islam. Mais il n'a pas lâché l'affaire, il a continué. Jusqu'à ce qu'il a convaincu. Alhamdulillah, shahadat. Elle a fait shahada, shahadu la ilaha illallah. Elle est morte 3 ans après. Donc elle a vécu 90 ans sur le kufr, 3 ans sur l'islam. 3 ans sur l'islam. Elle a tout gagné, alhamdulillah. 3 ans ou 3 jours? Je ne sais plus. Allah, j'ai un doute. Non, taïeb. Thaniyan, jawazu tahadduth fi ma yaqa'u fi an-nafs min umur al-akhirah. Troisièmement, le fait qu'il est permis de parler ou de dire des choses qui te passent par la tête au sujet de l'au-delà. Comme il a fait ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le Jibril est venu me voir, il a cessé de me conseiller en faveur du voisin jusqu'à ce que j'ai cru que ceci et cela. Donc tu as le droit de dire ce que tu penses, hein, même au sujet de certaines choses de l'au-delà. Rabi'an, hifdhul jari min kamal al-iman wa qannafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-iman عَمَّنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقُهُ. Et quatrièmement, le fait de prendre soin du droit du voisin. Et du voisin, de façon générale, ça fait partie de la perfection de la foi, de la complétude de ta foi. Hein, on verra dans le hadith suivant, inshallah ta'ala, Qu'est-ce que dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Qu'est-ce que dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bienveillant envers son voisin. Donc on comprend par là que le fait d'être bon avec son voisin, ça fait partie de la complétude et la perfection de la foi. Vous voyez? Et à l'inverse, on verra inchallah la semaine prochaine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a nié la foi de celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Imaginez-vous les frères. Et on l'a vu dans le hadith que je viens de citer. Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyuhsin ila jarihi. Qu'il soit bienfaisant envers son voisin. On comprend par là que quoi? Que celui qui n'est pas bienveillant envers son voisin, et au contraire, il nuit à son voisin, il gêne son voisin, ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que c'est un kafir? Non, mais ça veut dire qu'il ne croit pas en Allah Jalla wa Ala et au jour dernier d'une foi complète, d'une foi parfaite qu'Allah Jalla wa Ala te demande d'avoir. Ça veut dire que ta foi elle sera fortement diminuée par rapport à ce hadith qu'on verra la semaine prochaine إن شاء الله تعالى ونكتفي بهذا القدر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما والله أعلم.